The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 266 de la French Connection. Et cette semaine, on est avec Vanessa. Salut.
Salut.
On est avec Steve.
Bonjour, bonsoir.
Et Mr. Francis.
Bonjour.
Pour nos Shameless Plugs, ben on recommence la saison des Shameless Plugs. Ben évidemment, joignez-vous à nous sur discord.fest.ca pour la communauté. Si vous avez des commentaires, suggestions, discussions, on a un channel de la French Connection là-dessus. Donc, venez nous voir. Sinon, ben, beaucoup de conférences dans les deux prochains mois. À Québec, on a le Secure, 26-27 février. Cybertech Global Tel Aviv à Israël, le 24 au 26 mars. On est un peu loin, mais il y a une raison pourquoi que c'est dans les show notes.
Ben oui, on va aller faire un petit tour, on va aller dire bonjour à ce contexte du monde-là. Puis c'est ça. Ça fait changement que de rester ici.
Exact. Après, il y a le InCyber en Europe, où ce que Steve sera aussi, du 1er au 3 avril. Cyberéco à Montréal, les 8 et 9. AltSecon à Halifax, le 10 et 11. Le World Summit AI, le 15 et 16. Après ça, on tombe en mai avec NorthSec, du 10 au 18. Puis celle-là, tu m'en diras, c'est un peu quoi? Je pense que tu retournes là, hein, c'est vrai. La International Conference on Cyber Conflict en Estonie.
Oh, cool, toujours pas eu la confirmation, mais c'est l'intention qui compte.
Good, c'est bon. Fait que si tu l'affiches là, peut-être qu'ils vont te confirmer ça.
Ben, j'ai ça là, j'accroche, comme on dit, le chapelet sur la corde. On verra si les dieux seront favorables.
Parce le cardiologue!
Gabriel, elle va se retrouver aussi, comme je vais retrouver Gabriel à Cybertech à Tel Aviv. Là, donc, elle est confirmée, par exemple, c'est une autre histoire, mais j'ai bien hâte, en tout cas, de voir la réponse. Tu disais, Francis?
Je vais dire, quand tu dis que c'est l'intention qui compte, je vais dire, c'est le cardiologue qui a opéré mon grand-père qui est mort. C'est ça qu'il disait. C'est l'intention qui compte. Mais...
Il a essayé. Hein? je suis désolé. Le IT-Sec de dévolution à Saint-Hyacinthe.
Un rendez-vous, chers amis, chez nous. Puis le barbecue sur le top de l'hôtel. J'espère qu'il va être dégagé. Là, quoi qu'il y a pas mal de neige qui a fondu cette semaine. Mais effectivement, la conférence qui a un barbecue tout le temps. Là, fait que rendez-vous est donné.
Ah ben, je suis content. Si on veut faire un barbecue avec Fess, on n'a pas le droit.
Je vais être là, moi aussi, à IT-Sec cette année. Puis il y a un nouveau CTF qui va avoir lieu à IT-Sec cette année. Ils font un CTF et il y aura une partie physique sécurité de l'information au IT-Sec aussi.
Excellent, ça.
Je ne savais pas pour le barbecue, mais je suis agréablement surpris.
Oui, c'est un incontournable, ça. C'est ça qui fait que ça rend le tout agréable d'aller à cet endroit.
Bon, ben c'est parfait. J'y serai.
Et Vanessa, on a les 101 mots de la cybersécurité. Je te laisse expliquer le tout.
Oui, on travaille en ce moment avec l'organisme Data Franca. Les 101 mots de la cybersécurité, ça fait partie d'une de leurs collections. Ils font, par exemple, les 101 mots d'un secteur de la technologie qui souvent est très anglicisé. L'objectif, ben, d'abord, c'est que c'est aussi de donner un outil de travail d'abord aux étudiants. Parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'avoir la moitié des gens, par exemple, qui ne peuvent pas travailler en cybersécurité parce qu'il y a tellement d'anglicisme qu'on ne se comprend plus. Ça, c'est numéro un. L'autre raison, c'est que si on laisse à l'Office de la langue française le soin de faire les traductions, on se ramasse avec des choses des fois qui sont un petit peu farfelues, avec des chaînes de blocs un petit peu partout. Et ce que Data Franca propose de faire aussi, c'est d'arriver avec des traductions qui sont intéressantes, qui sont le fun, qui sont dynamiques, puis que les gens ne te regardent pas avec des gros points d'exclamation ou d'interrogation dans les yeux en disant « mais de quoi qu'elle parle? » Parce que moi, en moyenne, ça me prend 15 minutes de plus des fois faire des conférences en français. Alors oui, on en a besoin, les étudiants en ont besoin, mais c'est aussi un clin d'œil à la francophonie. On va pouvoir distribuer dans plusieurs conférences ces petits livres-là, le ACFEST, bien sûr, le FIC également, B-Sides. Et le but, c'est vraiment d'aller montrer les entreprises, la cybersécurité, de la francophonie, d'ouvrir des nouvelles voies commerciales, de travailler ensemble et de montrer que oui, on a une belle industrie ici aussi. Et il y a d'autres pays qui parlent français, il y a d'autres locations qui parlent français, il n'y a pas juste la France d'ailleurs, on parle tout le temps à la France, mais non, il y a d'autres marchés et des marchés qui sont en pleine explosion, incluant en Afrique, dans lesquels nos technologies pourraient avoir des belles places. Alors l'idée, c'est une idée de venir ensemble en tant qu'industrie. Data Franca, c'est un organisme à but non lucratif. Fait qu'ils sont prêts à faire tout ça gratuitement pour nous. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de le publier en version papier. Tu sais, un bon vieux livre que tu peux promener qui vient remplacer la carte d'affaires. Et pour ça, ben, il faut qu'on se mette ensemble comme industrie pour lever un montant qui correspond à 20 000 $. Alors, toutes les entreprises ensemble, je peux croire qu'on est capable d'aller chercher ce montant-là qui nous permettrait d'amener nous et nos organismes à but non lucratif et nos universités de nous exporter dans la francophonie. Alors, c'est un petit peu un appel à l'aide parce que sinon, je vais envoyer des courriels jusqu'à la fin du mois de juin. On recherche des gens qui seraient intéressés à faire partie de ce projet-là. Vous pouvez me rejoindre par courriel. V comme Vanessa, à commercial, C-I-B-A, C-E-I-B-A, point L-A, L-A-W. Merci.
Yes, awesome. Hey, super sujet de la journée aujourd'hui. Il se passe pas grand-chose dans les nouvelles québécoises. Juste la SAC qui se fait démolir de tous bords, de tous côtés depuis une semaine.
La SAC, la classe c'est... politique au complet.
Ouais, tout le monde. C'est du mensonge de A à Z. C'est un bordel. La classe politique qui dit qu'ils étaient pas au courant. Les preuves papier qui disent qu'ils étaient au courant. La classe politique qui s'attaque entre eux, puis t'as ceux qui ont fait le projet tout croche qui personne ne parle d'eux autres, sauf le Journal de Montréal, qui ont sorti une belle petite nouvelle décrivant que la SAC, c'est pas juste le projet satellite qui marche pas, c'est le reste aussi qui prend du retard. La moitié des engagements de la VPTI, qui s'appelle VPEN, là, un truc numérique, sont en retard. Les projets ne marchent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la responsable du développement de Satellite depuis environ 2017, si je ne me trompe pas, a été promue en position de VP, justement, du département numérique pour faire tout le reste. Et tout le reste, comme je viens de dire, ne fonctionne pas. Et donc, on se retrouve avec l'article de journal que vous trouverez dans les show notes qui explique que le tout était sous la gouvernance de Caroline Folz-Busk qui a géré ce projet-là. Vous trouverez aussi dans les show notes la belle vidéo du MCN avec Caroline qui nous explique comment faire un beau projet comme Satellite pour que ça fonctionne. Très fier. Oui. Puis très, très fier de leur méthodologie agile et du bon résultat qu'ils ont eu. C'est réellement ce qu'il dit dans la vidéo. Donc, allez voir ce désastre-là. La seule chose que j'ai à dire, c'est à quand qu'on va sacrer dehors toute cette équipe de gestionnaires-là qui n'a aucun sens. C'est pas la faute des employés, c'est pas la faute des ministres. Je veux dire, ils ont toutes des fautes, là, on s'entend. Les ministres auraient dû savoir que c'était un désastre et auraient dû arrêter le projet pour longtemps.
Exactement. Ils auraient dû, justement, aller creuser un peu plus puis de comme on dit, double-checker. Oui. C'est pas normal que tu aveuglément laisses ça aller, puis surtout avec l'importance que ça avait, les montants impliqués. Christy, n'importe qui ferait ça, me semble. Mais en tout cas, ça, s'il y a bien un point négatif à travers tout ça, j'ai à donner, c'est bien ça, là, parce que je m'explique mal.
Tout à fait. Mais on se retrouve aujourd'hui avec la direction des VP, qui est la personne qui a fait ce projet-là, qui ne fonctionne pas, qui va nous coûter un autre 500-600 millions de dollars. Aucune imputabilité. Puis je pense que ça, je disais tantôt, je pense que c'est ça le titre de l'épisode. Là. Il faut de l'imputabilité. Il faut arrêter d'avoir des gestionnaires qui n'ont aucune connaissance pour faire ce type de projet-là, faire ces projets-là. Parce que les employés en dessous, qu'ils soient bons ou pas, ça reste la faute de la personne qui gère le projet. Je suis désolé, là, mais,
non, mais pas, je suis d'accord
la responsabilité vient là.
Il n'arrive jamais, jamais à rien de grave pour ceux qui sont impliqués. Là.
La seule chose grave, c'est qu'ils leur donnent une autre job d'un autre ministère. Ben oui. Moi, quand je parle des secrets dehors, ce n'est pas les secrets dehors pour leur donner une job d'un autre ministère. C'est les bannir du gouvernement à vie. That's it. Trouvez-vous une job ailleurs. C'est
mais
tout,
Patrick, tu amènes un point. Tu parles d'imputabilité. Mais l'imputabilité, il y a un mot. Une coche en haut de ça qu'il ne peut pas avoir une imputabilité s'il n'y a pas de transparence. Regarde juste ce qui est arrivé avec le ministère de l'Environnement qui a décidé que, à toutes les 15 du mois maintenant, ils vont effacer tous les logs des conversations de Teams. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens accès à l'information, puis là, ils disent « Oh, tabarcelac, attends un peu, là. Hey, avant ça, on contrôlait. T'sais, moi, j'ai été quand même là, plus de 25 ans au gouvernement. Là. Puis, nombre de fois que j'ai eu des conversations avec des gens, puis on me dit, non, envoie-moi pas ça par courriel, là. On va en discuter tantôt. Tu sais, des discussions ouais. de corridor. Là. Et la machine, elle est conçue pour ça. Et à un moment donné, j'ai fait un petit post sur LinkedIn, justement, cette semaine là-dessus, puis je disais, avant de garrocher des roches à tout le monde, là, il faut penser comment notre structure elle est faite et la manière que la machine se protège, c'est je veux en savoir le moins possible. T'sais. Et oui, officiellement, il y a des gens qui vont dire qu'ils ne savaient pas. C'est peu qu'ils ne savent pas. Mais est-ce que quelque part, à un moment donné, il y aurait eu une discussion en disant, regarde, joue donc au firewall avec moi un petit peu. Là. C'est ça le terme que j'entends souvent. Là. Regarde, toi, tu es mon firewall. Montre-moi ce que j'ai à savoir. Puis le reste, là, regarde. Fait, il y a cette protection-là qui est tout le temps omniprésente qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et on, nous autres, on voit ça comme étant de l'incompétence. Mais il y a des gens qui trouvent ça compétent. Là. Il y a des gens là, qui mettent en place un gestionnaire dans un objectif précis. Puis ce qui va briser autour, là, c'est pas important. Il y avait une job à faire, il l'a fait, puis c'est tout. Tu sais. Et ça, il faut faire bien attention à ça. On en a beaucoup, OK, au gouvernement, des gestionnaires comme ça. Puis Steve en a probablement connu là, quand il était au gouvernement. Et moi, tu sais, j'en ai connu quelques-uns et c'est, ça devient effectivement très lourd. Et quand on dit, j'écoutais un reportage aujourd'hui, il y avait, je pense, c'est pas Isabelle Grigé, Isabelle Maréchal qui parlait avec M. Poitier.
Ah ben, Poitier, oui.
Puis là, il parlait de la protection des gens, puis les gens doivent parler. C'est pas vrai que les gens peuvent parler. C'est pas vrai qu'il y a un employé du gouvernement qui peut dire, hey là, moi, j'ai dit 10 fois à mon boss que ça allait planter.
Ben non, non. C'est ça.
Il voulait pas que ça soit par courriel. Et là, on se ramasse avec quelqu'un qui va se faire planter par par son organisation. Puis lui, est-ce qu'il va avoir les ressources de se défendre? Est-ce qu'il va avoir pris des notes de tout? Tu sais, parce que ça, c'est une affaire qu'on enseigne aux gestionnaires. Là. Prends des notes de toutes tes rencontres avec les employés. Lui, là, il y en a de l'information pour aller. Puis Vanessa pourra nous en parler. Hein? Quand tu vas en cours, la crédibilité, c'est important. Puis toi, tu es un ticoun. Tu n'avais jamais pensé que tu allais avoir à te défendre à la cour là-dessus. Ça fait 7-8 ans que tu es dans un projet de merde. Tu n'en as pas pris de note parce que toi, tu faisais ta job. Mais le gestionnaire qui comprend les coûts qui vont arriver, lui, il en a pris des notes. Puis lui, il est prêt à se défendre. Puis toi, ben, tu as l'air d'un ticoune.
Tout à fait. Mais la machine est brisée au complet. C'est plate à dire. Là. Puis tu sais, quand tu dis qu'ils n'ont pas le droit de parler, c'est vrai. Là. Je vous on l'a dit sur un autre podcast, je pense. Là. C'est qu'on se fait demander au Hackfest, est-ce que j'ai le droit de venir parce que je me suis fait dire de ne pas parler dans votre groupe? C'est pas des rumeurs, là. Il y a un régime, comme l'ancien épisode du Québec, là, Omerta, c'est vrai, là. C'est un vrai régime de ferme ta gueule au gouvernement du Québec.
Le système se protège. Le système se protège et l'actif le plus important, c'est quoi? C'est l'image. Et c'est triste parce qu'on met de côté les autres actifs. Regardez, depuis quelques semaines, le groupe Sedna, le groupe Champlain, là, ils ont, je ne sais plus trop comment, de CHSLD, là, 10, 12, 13 CHSLD. Ça a passé à nouveau. Là. Bon, ben là, on parle d'une cyberattaque, mais c'est peut-être une panne. Mais là, ça fait des semaines. Ben non, ça a passé justement à nouveau.
Ça
a
passé,
Ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, mais là, c'est qui? Là, c'est un organisme privé. Mais qui a accès à nos dossiers médicaux parce que les gens qui travaillent là, ils ont des clés DSQ. Fait que là, c'est qui peut nous dire ce qui se passe? C'est une cyberattaque? C'est pas une cyberattaque? Tu sais, quand ça fait, je sais pas moi, un mois là, que ton Internet est à terre, là, ben, je vais pas changer ton routeur, là. Je sais pas, il y a quelque chose.
T'es sérieux? Ils sont encore offline?
Mais je pense qu'ils sont encore offline.
Okay. You turn it off and on again?
Avez-vous essayé le petit Python reset? Mais tu sais, on vient encore à la question de transparence.
Ouais, mais c'est toujours ça. C'est ça le point, tu as raison. Mais
c'est une des plus vieilles questions. Je me rappelle, je faisais mon doctorat, ma maîtrise, le 10-15 ans, c'était l'histoire d'Edward Snowden, puis on disait, on va tout changer pour que ça n'arrivera plus jamais, que les gens soient obligés de faire des affaires fous comme ça pour les projets. Puis il n'y a rien qui a changé. Puis tu sais, si tu t'en vas, justement, si tu aurais fait déclarer quelque chose dans ton affaire de vulnérabilité, tu aurais renoncé à tes droits de toute façon. Tu n'aurais pas été plus avancé qu'aujourd'hui.
Pas besoin d'aller loin. Là. On retourne en 2020-2021. Le gouvernement voulait poursuivre Louis, le gars en coton ouaté à TVA, là, ou je ne sais pas quoi. Oui.
on est encore...
C'est pas de la transparence, ça, là.
On a encore le droit de Québec. Pour ça, au Canada. Il n'y a pas d'exception réglementaire pour le travail en cybersécurité, exact. Par exemple. Puis il y en a aux États-Unis. Il n'y en a pas ici.
Legault est allé dire publiquement qu'il voulait poursuivre. C'est juste une pression médiatique qui l'a empêché. Mais demain matin, il peut le faire encore, là.
Bien le sûr. Fait qu'il y a des défenses implicites que tu peux dire en cours, c'est bien, mais ça t'oblige à te défendre en cours. Alors qu'une défense statutaire, c'est de dire, écoute, j'ai le droit de faire ça. Là, on fait le choix de laisser une zone grise. C'est un choix, ça, une zone grise.
Ouais.
Et elle est là, puis elle est exploitée. Elle est entièrement exploitée. Parce qu'on dit aux employés, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut que tu le dises de la bonne façon, la bonne journée, quand le soleil est au bon moment, etc., etc. C'est pas simple non plus. Puis après ça, c'est vite fait, là. C'est vite fait de dire quelque chose à une mauvaise personne, ça escalade, puis après ça, ça devient un régime de la terreur, là.
Vanessa, des gens qui sont pas habitués de recevoir des mises en demeure à la maison, là ils commencent à recevoir des mises en demeure, puis ça met du stress. On n'est pas en cybersécurité, mais on est en sécurité. Québec, à un moment donné, là, la directrice, je pense, du syndicat de la police de Québec, qui passe dans le journal et qui dit qu'il n'y a pas assez de policiers lors des événements, puis il y a des risques pour la population, qui s'est fait poursuivre par le corps de police à Québec parce qu'elle a coulé de l'information stratégique. Oui, mais l'optique, c'est l'objectif, c'est pas de couler de l'information stratégique, c'est de dire « Hey, il n'y a pas assez de monde, puis c'est dangereux. »
Il y a un risque, oui.
Mais non, là, elle a été acquittée, si je me trompe pas, elle a été acquittée. Mais c'est pas grave. Là, on parle de je pense que c'est la présidente du syndicat. Mais quand c'est un nobody, un ticoun, un technicien,
c'est un régime de peur. Ça revient à ça. Oui, 100%. Oui.
Ben, c'est parce que généralement, quand on n'a pas le choix non plus de faire ça, c'est parce que c'est la seule façon qu'on peut se protéger. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire de la sécurité transparemment. On n'a pas assez de sécurité pour ça. Fait qu'on est obligé de créer des murs. On est obligé de mettre les gens à l'extérieur. On est obligé de retourner à des vieilles tactiques. Et là, on va nous dire que si nous, on demande la transparence, on est le problème parce que nous créons un risque de sécurité. Mais c'est pas ça. On a le droit d'avoir de la comptabilité. On a le droit d'avoir l'impugnabilité. Vous n'avez pas créé les réseaux qui nous permettent d'exercer nos droits, malheureusement. Puis on le voit partout, là. C'est toujours, c'est la faute du consommateur. C'est le consommateur. C'est toi qui n'aurais pas dû mettre ça dans ChatGPT. C'est toujours nous, c'est toujours
la personne qui utilise. C'est jamais la faute du client officiellement, mais la loi est dans ce sens-là. Exact.
Exactement. Fait que, tu sais, il faut faire la juste balance. S'il y a effectivement un risque de sécurité par le fait qu'on a un podcast, on a un autre problème que le podcast. On a vraiment un autre problème
que le podcast. Security, trap security, ça fait des années qu'on dit qu'il faut arrêter avec ça, là. Ça n'a plus de sens. Et quand les journalistes ou nous autres, on fait une demande d'accès à l'information, on se fait refuser pour des raisons de sécurité. Si c'est une raison de sécurité vraie, là, comme par exemple, la marque de système d'alarme chez le premier ministre, ça pourrait nous donner des informations tactiques pour faire des attaques. Je suis 100% pour ça. Mais si le risque de sécurité qui fait qu'on refuse l'accès à l'information, c'est on était tellement incompétent que vous allez découvrir qu'on est incompétent et là, on va être à risque. Ouais, ben là, ça, on n'a pas la même définition. Là, je comprends l'esprit de la loi, mais il y en a qui étirent l'esprit de la loi en tabarouette pour dire non, puis pas encore là, se protéger et non pas protéger l'actif.
Non, absolument. C'est le problème, c'est qu'il... C'est pas non plus jamais, tu sais, noir ou blanc, là. On n'est pas obligé de tout dire publiquement ou rien dire non plus, là. La majorité, justement, vous avez publié une belle classification des informations. Ça sert exactement à ça. Il y a des façons de communiquer de l'information qui est plus confidentielle. Il y a des façons de dire, hey, il y a ça qui se passe. OK, on va le traiter de telle façon. Voici comment on va le communiquer au public après avoir résolu X, Y, Z parce que l'information était classifiée de même. OK! OK, je peux te suivre, ça va, on va se suivre. Tu avais besoin d'un délai pour que l'information soit classifiée autrement parce que tu voulais résoudre la vulnérabilité. Ça va, mais c'est pas ça l'information qu'on nous donne du tout. C'est pas parce qu'on ne comprend pas le besoin de sécurité. On comprend bien que l'infrastructure n'est pas neuve partout. On se doute très bien qu'elle n'est pas parfaite, puis on comprend qu'il y a des choses qui pourront peut-être pas tout de suite être publiques.
Mais prenons un vrai exemple.
Un nouveau projet, que c'était pas public du début. C'est ça le but des nouveaux projets. T'es supposé être capable d'avoir une ingénierie transparente et publique. Si tu commences de même, ça va finir comment dans 5 ans?
Non, on va s'amplifier même.
Oui, c'est ça. Puis,
ouais.
T'sais, pour donner un vrai exemple, là, tous ceux qui nous écoutent, là, le ministère de la Famille, mfa.gouv.qc.ca, on a fait une demande d'information pour la plateforme info nuagique Famille, PIF. Même ça s'appelle. On n'a pas demandé à savoir est-ce que votre infrastructure a des vulnérabilités, est-ce que, donne-moi le diagramme, t'sais, on n'a pas demandé les informations comme t'explique Francis, ça, t'sais, qui pourrait mettre en conflit, là, ouais. À risque l'entreprise. Non, check bien ça. On a demandé la preuve de l'existence de documents d'analyse de risque. Dans le fond, avez-vous fait une analyse de risque? OK? La preuve d'un document, ça n'est un privé, là, c'est une évaluation de risque et vie privée. La preuve des documents de rapport de test d'intrusion applicatif et info nuagique. Dans le fond, un pentest réseau et un pentest applicatif. Ça, c'est la preuve du document. Tout ce qu'ils ont besoin de nous envoyer, c'est le front page, la première page qui dit « Ceci a été réalisé par telle date, par telle personne, sur telle application. » Des fois, il inclut la deuxième page qui est le sommaire, là, juste pour dire qu'est-ce qui a été fait. Mais la réponse qu'on a eue, là, c'est simple, là, c'est qu'ils nous ont refusé à 100%. Avec le document d'avis de recours, si vous n'êtes pas content, faites une demande à la CAI, puis d'ici 20 ans, il vous répondra là, à la vitesse qu'il rapporte.
Pas du tout.
Yeah. Ils n'en ont rien à foutre pour une raison de sécurité qui n'existe pas.
Parce que me fournir... mal exprimé, là.
Ben, en même temps, je veux dire, il n'y a aucun risque de sécurité de prouver qu'ils ont fait un test de sécurité.
Non, mais là, probablement que la machine se protège dans le sens que on a donné si on a fait un test. Parce que peut-être qu'il n'y en a même pas eu de test, tu comprends-tu?
On le sait pas.
Et c'est ça le but de la loi.
Il y en a eu un test. Peut-être que toi puis moi, puis Vanessa, puis Sébastien, quand on va voir le nom de la compagnie, on va dire « What the fuck? » On va faire comme on disait tantôt, on va aller voir sur LinkedIn, cette compagnie-là, Chris, ouais. Elle n'existait même pas il y a 6 mois, puis là, ils font des tests de pénétration. Tu sais, je veux dire, là,
ils
à un moment donné, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est ridicule, qu'on a fait des tests de complaisance. Ça prenait un test. On a trouvé un ticoun qui a dit « Moi, je vais te faire ça, bon, pas cher, le grand, puis tu vois, je ne trouverai pas grand-chose. » Ben là, ça, si c'est ça qu'on veut cacher, ben écoutez, là c'est, rendu là, c'est de la malice. Et la seule chose qu'on veut protéger, ce n'est pas l'infrastructure et les données. La seule chose qu'on veut protéger, c'est la machine puis des gestionnaires incompétents.
C'est ça, parce que c'est quoi le but de l'accès? C'est quoi le but de la demande d'accès? C'est de vérifier si l'obligation juridique a été mise en place. Je ne te demande pas de copie. Et tu demandes une demande d'accès, il devrait quand même dire non, le document n'existe pas. Oui, le document existe. C'est ça le but. Si je veux vérifier que ça a été fait, si ça n'existe pas, comment je fais moi, comme contribuable, pour vérifier quoi que ce soit? Et si je le fais pas, qui va le faire? La commission d'accès à l'information va se lever un matin, lundi, je vais voir le ministre de la Famille, qu'est-ce qu'il fait? M'aller cogner. Lui, puis
c'est pas l'avocat, là. À la défense de ces gens-là, moi, ma conjointe travaille en accès à l'information. À la défense de ces gens-là, peut-être que la madame et le monsieur qui a reçu ta demande, Patrick, là, il connaît fuck all en cyber, tu comprends-tu? Puis lui, il a vu test de pénétration, cybersécurité. Christian, on ne peut pas donner ça, c'est le malade. T'es-tu fou, toi? Ça, on va se mettre en danger. Fait, peut-être que c'est même pas de la malice de la part de la personne qui a répondu.
C'est l'obligation de l'organisation de former la personne. Ben, c'est son obligation d'être formée.
Je m'en vais, là, si tu me parles de ça. Francis. Ils ne forment pas personne, ils s'enseignent pas personne.
Je comprends, mais ça n'enlève rien au fait, justement, qu'on ne peut pas excuser. On ne peut pas l'excuser.
Non.
C'est comme dire à l'organisation, ben, je les ai traînés en cybersécurité, mais ce n'est pas ma faute s'ils cliquent partout. Okay,
mais ben, je veux juste dire que le petit monsieur et la petite madame au téléphone, là, il est peut-être hyper compétent en accès à l'information, mais là, on y fait une demande qu'il sort de sa zone de confort. Il y a bien des organismes qui n'ont même pas accès à, comment on appelle ça, un regroupement d'avocats en interne, Vanessa, un contentieux.
Un contentieux.
Ils n'ont même pas accès au contentieux parce qu'il faut qu'ils demandent au boss, qu'ils vont demander 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 au boss. Il y a un boss là-dedans qui va dire, hey, tabarnak, quand on demande des affaires au contentieux, ça finit toujours, on est obligé de faire des affaires. Hostie, fais pas de demande. Mais ils répondent pas. Ils laissent le courriel mourir. Ça disparaît, ça,
en fait, au lieu d'excuser ça avec la bureaucratie, posons-nous la question, pourquoi que la requête n'est pas faite centralement, d'abord? Pourquoi qu'on ne fait pas une requête centrale à quelqu'un qui est compétent à juste une place? Tu sais, des fois, là, la solution n'est pas vraiment très, très loin non plus. C'est pas à moi de vivre le manque d'efficacité. C'est pas à moi de vivre le manque, tu sais, comme on dit, d'exécution. La loi me donne un droit. Et il te donne une obligation. Comment tu l'exécutes ta partie? L'État a choisi de l'exécuter comme ça, qu'il y avait une personne mettons, au plus importe. Alors, l'État doit s'assurer que cette personne peut répondre. Sinon, ça redevient à moi de de contester. Donc, je renvoie le fardeau de preuve à la personne. Puis la personne, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, j'ai d'autres choses à faire, fait qu'elle lâche le morceau. C'est donc bien pratique. Ah.
Ça, c'est le même principe, Vanessa, que quand ta laveuse à vaisselle est scrap, tu vas chez le manufacturier ou tu vas chez la quincaillerie, il dit on peut rien faire pour vous. Envoie une mise en demeure. Le lendemain, tu es le meilleur ami du gérant. Hey, fallait nous parler, on vous a aidé bien avant ça. Effectivement, on veut décourager les gens. Mais Patrick, tu es chanceux, tu devrais faire une relance parce que maintenant, à la CAI, à la Commission d'accès à l'information, c'est l'ancienne sous-ministre adjointe qui est rendue là. Mais elle connaît ça, la cybersécurité. Fait que là, tu es correct avec ta demande. Ils vont te répondre.
Yeah, right. C'est seulement ça le cas. Mais pour finir ce sujet-là, pour ce que vous venez de dire, je pense que c'est la quote suivante qui résume le tout. C'est ne jamais attribuer à la méchanceté ou la malice ce qui peut être adéquatement expliqué par la stupidité ou si on peut dire l'incompétence. C'est ça. Je suis désolé, mais voilà. Et Francis, avant que tu partes, passons tes sujets tout de suite pour le modèle de catégorisation du MCN. Hey, ça, hey, c'est un sujet qu'il faut parler.
Dans ce que tu dis.
Hein? Ben oui, je sais. Mais j'ai dit qu'il faut en parler de la catégorisation du MCN. On a, personne n'en a parlé.
Ben oui, je l'ai parlé, moi.
Ben oui, mais je sais.
Ben non, mais je suis content que mon travail enfin voit le jour, que voilà. Ça donne quelque chose. Non, mais je vais prendre un crédit de Barbouze avant que l'autre le démolisse. Là.
Vas-y, mon Francis.
Bien, dans le fond, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé dans le passé. Puis, en passant, les gens qui ont travaillé là-dessus, là, chapeau, là. C'est des gens très compétents, là. Il y a Marc Girard, là, un des conseillers qui a travaillé là-dessus, qui va faire une présentation à Québec Sec, je pense, quelque chose comme ça. Puis, j'ai vu ça aujourd'hui, là, publié, là. Donc,
cette semaine, c'est demain même qu'il présente. Oui,
c'est pas Québec Sec.
Non, c'est quoi? C'est Sécure, quelque chose? Sécure, c'est que, ben c'est ça, excusez. Oui. Fait que c'est pas les gens hyper compétents. Ici, encore là, on a un exemple typique où est-ce que la machine prend des orientations. Puis une fois qu'elle a pris des orientations, là, c'est difficile de ramener les affaires. Grosso modo, pour expliquer c'est quoi ce modèle-là, c'est un modèle de classification de l'information qui. Et là, ils ont changé le nom. C'est déjà, je suis très content qu'ils ont changé le nom. Parce que là, maintenant, c'est rendu le modèle de classification de l'information numérique ou quelque chose comme ça. Là, on est vraiment dans... Pardon?
Ils ont complexifié le nom.
Ils ont complexifié le nom, mais le nom, est, là on est vraiment numérique. Là. Parce que l'enjeu qu'on avait là-dedans, c'est que si je regarde le gouvernement fédéral, on donne des classifications. Là, je vais juste parler de la confidentialité, parce qu'on sait que l'intégrité, la disponibilité, mais en termes de confidentialité, on va donner des codes de sécurité, hein, secret, très secret, protégé A, protégé B, etc., confidentiel. Mais ces codes de sécurité-là sont associés à un type d'information et non pas un média ou un médium. Donc, que l'information elle soit dite de manière verbale, qu'elle soit sur papier, qu'elle soit sur un disque dur, qu'elle transige sur un réseau, la code de sécurité ne change pas. Ce qui va changer, bien sûr, ce sont les contrôles de sécurité qui vont venir s'assurer qu'il y aura un niveau de sécurité suffisant par rapport à la code qui sera attribuée à l'information. Ça, c'est le modèle fédéral, c'est le modèle de l'OTAN, c'est le même partout. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Le gouvernement du Québec, déjà là, le MCN, qui est le ministère de la cybersécurité du numérique, fait longtemps que j'en parle, le MCN n'a pas le bon nom. Au gouvernement du Québec, on devrait avoir le ministère de la sécurité de l'information du gouvernement du Québec. Là, on est axé cyber, il y avait un trend, cyber, c'est hot, on va aller avec la cyber. Le problème que ça crée, c'est que là, on a créé un modèle qui ne s'applique qu'au domaine numérique. Fait qu'on a créé un modèle de classification qui est juste bon pour les données numériques. Alors, si j'ai un document papier, le modèle de classification ne s'applique pas. Si j'ai une conversation orale sur Teams dans une salle de réunion, le modèle de classification ne s'applique pas. Et si je fais je rajoute ça avec la loi 25 qui amène des obligations légales, non seulement c'est pas bon, mais on réduit la sécurité de certains organismes et de certaines entreprises. Et je m'explique. À un moment donné, j'aurai des entreprises ou des organismes qui devront faire de la sécurité, genre revoir les caméras de sécurité, revoir le contrôle d'accès ou changer la serrurerie. Et là, ils seront dans une obligation de dire, oh, en vertu de la loi 25 et du modèle de classification de l'information numérique, j'ai l'obligation de faire telle affaire. Alors là, on pourrait se retrouver dans une situation où on pourrait avoir une évaluation de menace et risque complète qui amènerait des vulnérabilités, entre autres au niveau du filtrage de sécurité, au niveau de la sécurité physique. Et parce qu'on s'est concentré sur la classification numérique et on a mis ça en conjoncture avec la loi 25, on pourrait s'en passer dans une situation où on ne rend pas service aux entreprises, là, bien au contraire, puis aux organismes, on pourrait même créer des failles de sécurité. Fait que ça, c'est une affaire que je trouve un peu plate. Je trouve qu'on a manqué la cible. Il y a énormément de ressources qui ont été mises là-dedans. Personnellement, j'ai eu la chance de mettre de la pression sur des gens, vraiment, pour qu'on revienne à un modèle un peu plus classique. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et encore là, c'est pas le travail des gens en place. Et il faut faire bien attention de dire les gens qui ont travaillé là-dessus, c'est des pas bons. Je ne crois pas ça. J'ai travaillé avec ces gens-là et c'est des gens qui sont très compétents. Par contre, la structure au total avait décidé qu'on allait dans ce sens-là et ça a été impossible de le ramener. Alors, je trouve ça très, très triste parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail puis finalement, on accouche un peu d'une souris par rapport à ça. Fait que c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je peux dire que tu as un avis peut-être divergent du mien là-dessus. Là.
Ben absolument, parce que c'est une base qui était nécessaire, qui vraiment découle du projet de loi 95, pour commencer à connaître premièrement où est l'information, quel est ce type d'information. Parce que dans le contexte de l'info nuagique gouvernementale, c'était réputé d'avoir l'information qui n'est pas très sensible, qui va être envoyée sur ces infos nuagiques à l'extérieur du gouvernement. Donc, décidément, selon la classification de l'information protégée B, donc qui cause un préjudice grave à une organisation ou un individu. Cette façon-là, c'était pour, à ce moment-là, être aussi au pair avec la classification fédérale et que ça arrête de faire toujours l'éternelle comparaison de l'information qui arrive du fédéral, l'avoir au provincial. J'ai parlé de ça avec DPCP, Sécurité publique et d'autres organismes comme ça qui font constamment des échanges fédéral-provincial. Puis tout le monde était content de savoir qu'enfin, on va enlever cette épine du pied. Puis on va faire ça un pour un, puis tout le monde va être correct, on sauve du temps.
Fait que là-bas, il y a un agrimage au niveau des termes. Maintenant, le confidentiel provincial et le confidentiel fédéral, au moins, ce sont des équivalents au niveau de l'information numérique.
Les oreilles me saignent quand tu dis ça, c'est parce que c'est beau mettre un libellé, mais il faut que le reste suive. Et c'est là que le gouvernement du Québec n'est pas prêt. Il ne sera pas prêt avant longtemps. Puis je me suis battu pour ne pas qu'on adresse ces éléments-là. Cependant, protéger C, ben, dans les descriptions fédérales, il faut que tu le traites au même niveau de sensibilité que du secret. Mais là, quand tu tombes avec la classification secrète, là, tu as une séparation physique des moyens pour le protéger, l'entreposer, le traiter. Les habiletés de sécurité aussi doivent être octroyées aux gens qui vont gérer, manipuler l'information, que le système n'est pas en place. Sauf
c'est un écosystème de sécurité, Steve.
Ben, c'est là que ça rentre. C'est pas juste de donner un nom. Là. Ben oui, exactement. Fait que tu sais, c'est de cette façon-là que fallait commencer à quelque part, Francis, et c'était la bonne introduction. Commencer à faire l'inventaire des données et après ça, les étiqueter comme du monde. On s'entend, c'est 95% de l'information qu'au gouvernement du Québec, c'est toute l'information protégée B, protégée A. Là-dessus, on pourra faire une proportion de moment donné. Le restant, ben effectivement, là, parce que j'ai pas voulu peser sur le champignon là-dessus, mais si on commence à faire la promotion, l'intégration d'informations classifiées, on va se retrouver avec plus de bris de sécurité à gérer que gérer l'information classifiée. Parce que, un, les gens ne sont pas éduqués, deux, ne sont pas équipés, etc. Fait que c'est dans cette idée-là qu'on va commencer avec la base, puis après ça va bien évoluer. Moi, c'est comme ça que ça va être accepté, que ça va bien, je crois, servir le besoin. Parce que le reste des autres provinces canadiennes, c'est tout des 4 niveaux, des fois il y en a 5, qui sont localement générés, qui ne sont pas arrimés avec le fédéral. Donc, il va falloir qu'ils retravaillent, d'après moi, eux autres aussi, mais que ça soit adressé de façon pan-canadienne, mettons ça comme terme. Fait que, oui, encore une fois...
Le niveau numérique, Steve, 100% d'accord avec toi. Moi, c'était juste au niveau... J'ai l'impression que présentement, je fais un petit peu l'analogie avec un véhicule. Oui. J'ai l'impression qu'on est en train de se casser la tête avec la sécurité du système infodivertissement. Parce que là, on est rendu que dans notre gouvernement, on est rendu avec du numérique. Mais si le frein à main, il est pété, puis on a des pneus à la fesse, tu comprends-tu? On n'a jamais fait la sécurité physique normale, comme le fédéral l'a déjà fait. Le fédéral, quand tu avais, par exemple, du protégé B, tu étais obligé de mettre tel type de cadenas, tel type de classeur, tel type de système. Il y avait il y avait des règles, il y avait des contrôles de sécurité physique, même chose pour l'habilitation sécuritaire que tu parlais tout à l'heure.
Encore là, d'ailleurs.
Là, j'ai l'impression qu'on s'est garoché dans le cyber.
Ben oui.
Un peu comme dans la COVID, là, c'est souvent une autre analogie que je fais. C'est comme si la COVID, là, il n'y a plus d'autres maladies. Ça, on a mis tout le cash dans la COVID à un moment donné, puis les autres maladies, c'est comme si elles n'existaient pas. Et là, présentement, nos entreprises, elles sont livrées à elles-mêmes, nos organismes sont livrés à elles-mêmes, et on voit des affaires qui n'ont vraiment aucun sens. Puis je trouve qu'on a un petit peu manqué. Je pense qu'on aurait pu le faire les deux en même temps. Quitte à mettre les mesures plus tard, mais au moins dire
non,
au Québec.
Non, je suis d'accord, Francis, parce que si tu prends juste la sécurité de communication, on va juste parler de ça d'un instant. Tout le monde se dit, hey, c'est safe, j'ai envoyé ça par email. Non, asti, un email, c'est pas safe. Ah, ben, je vais l'envoyer avec un courriel caché, puis je vais mettre un mot de passe sur mon dossier, sur mon fichier doc, ou peu importe le fichier. Non, ça se brise. T'sais. Le niveau de sécurité, il n'est pas réellement connu de la part des gens. Ils prennent des trucs sur le bord, des moyens du bord.
Ah oui.
Rappelle-toi le portail que le ministère de la Justice avait mis là, 15 ans en fonction pour que les juristes fassent un échange sécurisé. Mais c'était quoi? C'était justement par un portail web. Il allait sur la plateforme qui hébergeait le courrier électronique et seulement par authentification comme ça, tu pouvais faire l'accès vers ce courrier électronique-là. Tu ne pouvais pas l'envoyer dans ta boîte à mail Gmail normalement. Et ça n'était une première étape pour faire un échange sécurisé. Mais il faut se rappeler qu'HTTPS, donc le TLS 1.2, 1.3, ne répond qu'à une norme justement de protéger de l'information dite protégée A, protégée B. C'est ça qui est la norme nationale édictée par le CST. Puis dans le reste du monde, c'est la même affaire chez les Américains et tout partout. Fait que tu sais, demain matin, s'il faut justement adresser de l'information, puis on pourrait le faire, l'inventaire d'être là, si on prend juste l'horaire des gardes du corps que tu connais très bien, du premier ministre, son entourage, de tous les ministres. Ça naît une information qui devrait être de réputation confidentielle. Mais si on rentre à travailler avec ça, puis tous les cellulaires de cette gang-là, etc., là, il faudrait qu'on ait un réseau parallèle, entreposé et accéder juste par cette gang-là. Hey, t'imagines-tu, toi, là, que demain matin, on débarque et on dit qu'il faut faire ça? Là. Holy shit!
Oh, non, mais c'est pas dans ce sens-là que je disais ça, Steve, mais je suis
d'accord. Je donne l'exemple pour nos auditeurs que ça implique un paquet d'affaires de même. Oui. C'est pas juste, encore une fois, de mettre un petit tag qui est disponible dans M365 et que là, on est dédouané et on dit, hey, moi, j'ai tampé mon document, je suis dédouané.
Ah oui, parce qu'il est confidentiel, personne ne va le lire, tu sais.
Et voilà.
Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, présentement, on a classifié au niveau numérique et on va mettre des mesures au niveau numérique. La seule chose que je dis, c'est que peut-être qu'on aurait pu au moins ouvrir la classification au sens large de l'information, quitte à, pour l'instant, juste mettre des mesures au niveau numérique, mais au moins aider les gens avec une classification. Attends un peu, déjà commencer à mettre dans la tête des gens, là, quand j'ai une discussion, tu sais, en informatique, en cyber, on connaît ça, tu sais, le Traffic Light Protocol, le TLP, là, tu sais, bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait mettre dans la tête des gens.
Un protocole de bonne conscience, on s'entend. Ben là, oui. Ça ne protège rien. Bon.
Ben ça permet, ça ouvre à des poursuites. T'sais, ça permet au moins d'établir des règles. Hey, mais je suis d'accord avec toi, ça ne garantit rien. Là.
En deux dodo, là, pense en deux dodo avec ton petit. Check, fais une simulation. Toi, là, comment tu vas être capable d'aller chercher la preuve que quelqu'un a brisé ce lien de confiance et qu'il y a, comme on dit en anglais, des spill their beans. Là, ouais, ils ont vraiment parlé.
Même concept qu'une diffamation. Là.
On est dans un contexte civil de probablement de droit civil, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, avec le protocole TLP, pour ceux qui nous écoutent, le protocole TLP, c'est simplement on donne une code de sécurité quand on se parle, quand on écrit rapidement.
De sensibilité.
En plein ça.
Pas de code de sécurité, là.
Ben non, tu as raison. C'est comme une code de confidentialité. Donc, on parle de red, clear, orange, etc.
Amber straight.
Et l'idée, ça vise deux choses. Parce que des fois, ce qu'on vise, c'est la confidentialité de l'information. Fait que si je te dis que c'est TLP red, ça veut dire que c'est juste nous autres qui peut changer l'information. Mais on oublie des fois qu'il y a des informations qu'on veut qu'elles soient le plus publiques possible. Et c'est important de donner une code de confidentialité à cette information-là aussi parce que des fois, on va dire, voyons, comment ça tu l'as pas dit à Vanessa qu'il fallait pas qu'elle appelle là, que c'était dangereux? Ben, Francis, je pensais quand on s'est parlé, c'était confidentiel. Non! Si je t'en ai parlé, c'est parce que je voulais que tu diffuses l'information. Fait que des fois, c'est aussi important de donner, de prendre la peine de dire, de mettre un libellé faible pour dire à l'interlocuteur, ça, là, tu peux le partager, que de mettre un libellé qui est en termes de confidentialité, qui est plus élevé. Ça a de l'allure?
Oui, c'est l'exemple que j'ai donné avec la communication sécurisée, c'est que là, tout le monde pense...
Tu sujet, là.
Ouais,
qu'est-ce que tu dis,
Patrick? Il faut changer de sujet, là. Check mon word.
Sécurité de communication, que je disais dire en dernier, c'est que, vois-tu, même l'armée suédoise vient d'adopter, le gouvernement suédois vient d'adopter Signal comme application pour avoir un gage de confidentialité lorsqu'il parle. Over the phone, autrement dit, sur un cellulaire, parce qu'on le dit combien de fois par semaine, une conversation cellulaire, c'est interceptable par n'importe quel appareil partout dans le monde, au même titre qu'un message SMS. Fait que donc, il faut prendre des applications sécurisées pour minimiser le risque de confidentialité soit brisé. Mais encore là, c'est une application qui est de source ouverte. La communauté en prend soin, c'est pas à 100% proof. Et s'il y a vraiment des détails très juteux à jaser sur cette conversation-là, ben parlez-en un en face de l'autre, sans appareil électronique autour de vous, je le répète, mais c'est pour ça que dans un appareil gouvernemental, lorsqu'on en fait l'évaluation du risque de jaser, ben à défaut de rien, c'est trop bien un outil de plus. Mais tu sais, il faut normaliser puis il faut le documenter. Et ça manque, Francis, pour faire juste la note la fin sur qu'est-ce qu'on disait tantôt. Fait que un moyen, faire la documentation, l'inventaire, ça fait partie de n'importe quelle évaluation de risque. Puis après ça, être en mesure d'en faire justement la détermination, quelle est la criticité de cette information-là, faire l'évaluation de préjudice et après coup, ils peuvent appliquer le bon libellé. Fait que down the road, ça veut dire qu'il va y avoir de la job pour encore les 10-15 prochaines années à se casser la tête là-dessus. Mais moi aussi, j'en force avec toi, Francis, il faut qu'il amène l'élément physique avec, c'est indissociable, parce que le data center va être à la cote, la plus haute cote de sécurité qu'il doit y avoir, l'information à l'intérieur, au même titre qu'un PC et le reste. Parce que tu peux pas dire, m'a imprimé ou photocopié, si jamais c'est encore le cas, sur un appareil de plus bas niveau de sécurité, alors que l'information est très sensible. Donc, c'est là qu'il y a cette rééducation-là à faire, puis aussi beaucoup
d'achats. On a un bel exemple, Steve, là, cette semaine, l'Assassin's Creed, le nouveau. Il y a une fuite chez Ubisoft, et il y a une fuite non seulement numérique, mais il y a eu une fuite physique. Et il y a des copies du prochain jeu physique qui sont rendus sur le marché, là, qui ont disparu de chez Ubisoft dans la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est pas juste les firewalls, là. T'as-tu barré tes portes dans ton entrepôt ou il y a quelqu'un qui a laissé traîner et arrêté chez Subway chercher un sous-marin et il a laissé les DVD traîner dans sa vanne? Ben, c'est ça.
Tout à fait. Ce qui me rend triste de toute cette histoire-là, c'est que la classification que vous parlez depuis tantôt, on l'a mis en place en 2010 ou 11 dans une majorité de ministères. C'est le fun. Ouais. C'est à la vitesse que ça va. Hein? C'est ça que je veux dire.
Ouais, ça n'a pas été respecté fort parce que...
Mais non, je ne dis pas que c'est respecté, là, évidemment, mais ça a été mis en place et c'est disparu.
De toute façon, Vanessa parlait de formation tantôt, il faut former les gens. Si en je vous plus. Dis, moi, j'ai vu des documents imprimés sur des babillards, là, dans des cafétérias. J'ai vu ça au gouvernement. C'était quoi donc? C'était secret et hautement confidentiel.
Ouais.
Sur le mur.
Secret et hautement confidentiel. C'est un gestionnaire au gouvernement qui marque ça, là. Puis là, c'est le même gestionnaire qui dit à ses employés, n'oubliez pas d'aller suivre votre petit cours sur la sécurité de l'information en ligne. Parce que là, si vous n'avez pas fait ça, moi, je me fais chicaner par mon boss à moi qui va dire que je n'ai pas bien formé mes employés.
Je mets ça de même, Francis, parce que vous l'attirez l'attention. Je suis sûr qu'il savait ce qu'il faisait. Voyons donc.
Hey, Switchard, Vanessa, on parle de Dora. Explique-nous un peu plus c'est quoi, parce que je pense que ça aura pas mal d'impact là, avec tout ce qui se passe aux US.
Dora, c'est la séquence de DHCP, ça, quand tu donnes une adresse.
Ah, je pensais que tu allais dire « I'm the backpack ».
Moi, j'ai compris Dora, c'est pas l'exploratrice, ça, Dora. C'est quoi ta
vie? C'est à peu près ça, les réactions que
j'ai. Les quatre étapes d'une adresse DHCP, les données, Discover, Offer, puis après ça, j'ai oublié de l'oublier.
Mais c'est pas mal la réaction que j'ai eue de plusieurs personnes cette semaine quand ils ont reçu leur contrat. On dit « Ah, t'es bien cute, j'ai signé ça, une affaire Dora. » Genre, ben c'était pas tant cute ce que t'as signé, ça va te coûter très cher, en fait. J'ai dit, tu sais, c'était un beau petit nom, mais sur papier, c'est très demandant. Mais c'est surtout que c'est un paradigme qui est un petit peu différent en termes de comment on approche le droit. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est un bon segue aussi sur qu'est-ce que vous me parliez au niveau de la classification, parce que Dora, c'est une loi qui parle beaucoup, en fait, d'intelligence, qui parle beaucoup de transfert d'informations, de partage d'informations. Et elle approche vraiment l'industrie. Tu sais, c'est la supply chain jusqu'à la fin de la supply chain. C'est toute la supply chain qui rentre à l'intérieur. Et on arrive vraiment avec un nouveau concept vraiment du risque. C'est qu'on t'oblige à voir ta place dans l'écosystème. On t'oblige à travailler avec les autres, faire des tests, par exemple, en BCMS. Là. Tu peux plus maintenant juste runner des petits scripts puis sortir, regarde, j'ai fait tout est testé. Non, il faut que tu le fasses avec tes clients, avec tes suppliers. Il faut que ça se fasse en groupe. Il faut qu'en groupe, on soit capable de remettre debout. La logique de cette loi-là, Dora, qui est le Digital Operational Resilience Act, c'est que le système financier de l'Europe est aussi fort que son plus faible maillon. Fait que si on a, par exemple, juste un cloud qui est dans toutes les banques, puis que ce cloud-là, il tombe mort, bien là, ça oblige les banques à dire, t'as pas le droit de penser juste à toi. Si tout le monde au complet dépend de ce vendeur-là, et que ce vendeur-là, demain matin, a une brèche de sécurité, quels sont les impacts? C'est ça maintenant le critère. Alors, s'il est critique pour moi, il est critique pour tout le monde dans l'industrie de la finance parce que je vais le dire au régulateur. Steve, qui lève sa main tout poli.
Non, mais je voulais juste, vite, ça se rapproche pas mal de ce que PCI DSS comme norme se veut sur le marché.
C'est, en termes de comment ça s'applique, c'est que ça va vraiment chercher un supply chain, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on a trois classifications. Du moment que tu es un ICT vendor, donc Information Communication Service, tu vas tomber in scope. Dès que tu donnes un service à la banque, peu importe petit comment ton software est, et même s'il est open source, tous les softwares vont tomber in scope, puis que tu l'oses les donner, que tu les oses pas, c'est pas grave. Fait que là, il y en a qui viennent de se réveiller, on dit « Oh, moi, j'avais pas de RGPD avant, la vie était belle. » Là, ils viennent de se ramasser avec une loi qui est très, très haute, alors que ceux qui étaient dans la RGPD ont dit « Bon, what's new, hein? » On va prendre une petite marche, puis ça va. Alors, il y a des compagnies que pour eux autres, c'est très haut, qui peut-être ça, le savent pas, mais le contrat s'en vient, parce que ça l'a passé il y a 2-3 semaines seulement. Ce contrat-là a d'ailleurs beaucoup de termes ambigus, beaucoup de droits de résiliation unilatérale pour les entités financières. Donc, si ça marche pas, puis si on voit que vous êtes pas fiable au niveau des risques et que vous causez un risque au niveau du système de finance, j'ai le droit de faire bye maintenant et tu es obligé de me donner un plan de transition pour m'amener dans un nouveau cloud ou dans un nouveau service. Évidemment, c'est proportionnel. Si dans la vie, vous êtes des services infonuagiques, vous allez avoir des obligations qui sont plus grande qu'un software qui n'a pas nécessairement de hosting. Mais ça reste que ça s'applique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu es in scope, tu vas avoir un contrat qui a des trucs qui vont se ramasser à la continuité d'affaires, etc. Mais s'ils disent que tu aides dans une fonction essentielle, alors là, tu vas avoir encore plus d'obligations en termes d'assurer que moi, comme client, quand je m'en vais, je peux partir. Je peux partir bien, puis quand je veux, puis dans mes termes. Alors, tu es obligé de faire ça. Et si en plus de ça, tu es critique, donc, si tu es essentiel et critique, alors on va t'assigner un surveillant du gouvernement qui va venir te rencontrer. Tu vas être obligé de faire des threat intelligence-led pen tests qui peuvent être faits seulement par certaines firmes accréditées. Alors, en voulant dire, c'est pas une joke. Ça marchera pas payer quelqu'un à 125 $ en ligne. Oublie ça. C'est une loi qui est très, très solide et qui a beaucoup, beaucoup de standards techniques qui vient s'accrocher. Fait que c'est pas, tu te lis, tu dis, oh, c'est un peu vague. Là, tu regardes le standard technique, oh, c'est un peu précis. C'est très, très complet comme à la mode européenne, comme on dit. Donc oui, ça va faire son chemin jusqu'en Europe, mais je trouve que qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est vraiment où qu'on force l'organisme à faire une pensée de quand on fait notre risk assessment, finalement, t'as pas le droit d'être le nombril du monde. C'est pas toi le nombril du monde. Et ça, on dit longtemps en vie privée. On a tout dit, c'est pas toi, c'est le consommateur. C'est pas toi qui est important. Quand on est en cybersécurité, par contre, c'est tout le temps nous. C'est le board qui est au centre. Alors, ça nous amène vraiment une perspective qui est différente. Et bon, c'est sûr que je compatis un peu avec les entreprises qui doivent se conformer à tout ça. C'est très, très précis. On est obligé de partager de l'information sur le threat intelligence avec nos clients. Fait qu'il faut avoir justement des ententes pour le faire et des mécanismes pour le faire. Je veux dire qu'il y en a qui sont à des milles et des milles et des milles d'avoir ça en place. Fait que c'est sûr qu'il y a du travail à faire. On va voir si la loi va avoir des dents. Mais je trouve ça intéressant comment l'Union européenne, encore une fois, nous amène, je pense, un modèle qui est totalement différent que qu'est-ce qu'on a ici. En fait, la loi C-26 qui traîne la patte, qui a de la misère à passer. Puis eux autres qui arrivent avec un framework comme ça, puis 28 pays se sont mis d'accord. En 2 ans, ils ont adapté tous les standards. Je veux vous dire, d'un point de vue juridique, c'est impressionnant. Tu te dis, oh wow, quelle machine. Tu sais, quelle machine.
Ben, Vanessa, c'est-tu le genre de truc qui nous aurait... Steve et Patrick, je pense qu'ils connaissent plus ça que moi, là. Mais quand il y a eu la panne d'Interact, là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un single point of failure, là, tu sais, que c'est, on offrait un service, mais est-ce que c'est le genre de loi, Vanessa, qui pourrait éviter justement là, qu'on se ramasse pendant des jours avec plus capable de faire de transactions
C'est le but. Est-ce qu'elle va fonctionner, c'est autre chose. Mais je pense qu'ils ont jusqu'au 25 avril pour faire parvenir un registre avec la liste de tous les vendeurs. Tous les financial entities vont devoir communiquer la liste des vendeurs qu'ils jugent critiques. Et le gouvernement va passer dans toute cette liste-là. Fait qu'au minimum, votre nom va se ramasser devant le gouvernement puis il va décider si vous êtes critique. Si vous êtes critique, c'est vous et tout votre groupe de compagnie au complet qui devient critique et qui doit se conformer à DORA, même si c'est une division qui vend juste des biscuits pour chiens en ligne. C'est énorme comme parce qu'eux autres disent qu'il n'y en a pas de séparation entre vos systèmes. Une compagnie qui a une bonne continuité, c'est une compagnie qui le fait à l'échelle du groupe de compagnie, alors ça va être toutes les entités à l'intérieur du groupe. Donc, vous comprenez que...
Audacieux.
On vise GAFAM, puis tu ne vas pas t'en sortir avec Microsoft Ireland cette fois-là, mon ami. En vrai, c'est ça qu'on est en train de dire. Tu ne pourras pas aller diviser tes compagnies pour essayer de passer à l'entour des lois. On arrive, puis du moment que ton cloud est assez gros pour avoir des données, tu peux être assuré que tu vas te classifier. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, justement, c'est qui va être emporté avec ça, les petits revendeurs, par exemple, comment ils vont être classifiés à l'intérieur de cette chaîne-là. Fait que, loi très intéressante et qui parle aussi de la volonté de l'Europe de maintenir une souveraineté technologique. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent très bien qu'ils ont un problème technologique. Et on dirait qu'on veut sur la RGPD, peut-être que l'innovation n'est plus là en Europe, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'en Europe, des options et fois nuagiques, il y en a, puis il y en a beaucoup.
Ben, les plus gros data centers, c'est les Chinois, donc c'est China Telecom qui est partout sur la planète, ils ont 35 data centers juste aux États-Unis. Mais surtout, comme on disait tantôt, Francis, c'est ta question, le C26, il a été pensé par après de cet incident-là chez Interact.
Oui.
Fait que le but, c'est vraiment que, et c'est pour ça que tu as un gros lobby qui est contre l'adoption de C26, c'est que là, tu as les verticaux là, de la finance, la production énergétique, les télécommunications et les transports qui soient redevables au Centre canadien de la cybersécurité. Mais là, tout le monde n'est pas content parce que là, tu lèves le voile sur la sécurité par l'obscurité. Là. Fait que ce que Vanessa énumérait justement, tu sais, c'est là que les gens sont très mal à l'aise parce que, oups, du jour au lendemain, il faut qu'ils montent un petit peu plus de transparence dans leur état d'être. Puis après ça, bien, quand le mal arrive, s'il frappe encore à la Interact, bien, il va falloir qu'il explique justement ton produit ou ton service que tu offres à la population au complet. Tu n'as juste pas pensé de mettre un lien secondaire en cas du primaire qui tombe. Hey, c'est de la base, tu sais. Fait que des affaires comme ça, effectivement, là, que je suis content moi, d'entendre ça parce que ça va aider à notre société qu'on veut faire une transformation numérique, mais si c'est fait à moitié puis tu croches, on va toujours en avoir des problèmes de même.
Mais Steve, moi, contrairement à toi, on est le yin et le yang de la sécurité, toi. Puis moi, je suis triste. Moi, je suis triste quand j'entends ça. Sais-tu pourquoi? Parce que là, on se ramasse que dans C26, on va se ramasser avec les infrastructures critiques comme les centres d'épuration des eaux puis de filtration puis tout ça.
Non, ils ne sont pas là-dedans encore.
Ils ne sont pas encore dedans?
Non.
Mais ils devaient l'être.
Pardon?
Ils ne devaient pas l'être?
Non, parce que c'est de compétences provinciales.
Ah, mon Dieu, OK. Mais tout ça pour dire que ça reste quand même dans la même mouvance, c'est que je vais avoir des infrastructures critiques dans ces 26 qui vont avoir certaines obligations au niveau cyber, mais encore là, au niveau physique, peut-être que tes portes ne sont pas barrées puis tu es vulnérable au niveau physique. Mais c'est comme si on a construit une maison, le salage qui est la sécurité physique est en train de s'égrener. Là, on est en train de se casser la tête si on va mettre du marbre comme plancher ou penthouse. Là. Il faudrait prendre un pas de recul et dire là, toutes nos infrastructures critiques, là, est-ce que vous avez des plans de continuité des affaires? Qu'est-ce que vous avez comme sécurisation du site, mais sécurité avec un S majuscule, tu sais? Peut-être que c'est un de mes fantasmes. Il y en a qui ont d'autres fantasmes dans la vie, mais peut-être que je vis sur ce fantasme-là de un jour, à un moment donné, des évaluations globales.
Je te rejoins là-dessus, Francis, parce qu'à la défense, là, ça n'était pas mon champ de responsabilité. Il fallait que tu certifies soit un logiciel corporatif ou des réseaux en exploitation. Fait que de tout ça, il y avait un cartable qui était dégagé avec un paquet de critères, puis ça incluait la sécurité physique parce qu'à la fin, tu avais l'accréditeur physique qui passait, qui est la police militaire, plus l'échelon national, que là, regardait toutes les procédures, ton diagramme réseau, ton qui est en charge, blabla. Puis après ça, il est en paix, la mise en opération. Puis si ça fuckait up, bien là, il fallait que tu revoies ton plan de continuité, ton plan de ton canap, autrement dit, ton plan d'exécution. Et il fallait que tu répondes aux questions.
Fait que le moi, fédéral a toujours été fort là-dessus.
Mais il reste, c'est comme ça, je vois qu'au fédéral, qu'est-ce qui a été fait, là, comme ça, tu dis au fédéral, ben, ça devrait être justement un genre de programme mandaté et que ça soit obligatoire, mais que ça serait lourd à entretenir, encore une fois, parce que c'est long à démarrer. Imagine, on faisait ça à l'intérieur de la défense, puis tu as déjà des gens qui sont connaissant de la culture de la sécurité de l'information. Fait que là, imagine, vous t'amène ça dans l'espace public. Là. Toujours là, ils vont dire « Hey, c'est pas payant, on fait pas ça. Sinon, c'est qui va payer pour blablabla. » Tu sais, il y a toujours ça qui ressort, malheureusement.
Et voilà.
Hey Vanessa, une dernière petite nouvelle de ton côté. Tu peux faire ça en 30 secondes, mais je pense que c'est assez drôle qu'on en parle. Ben oui, la poursuite contre Doge. On peut pas penser à côté de celle-là.
Ok, oui.
Ben, écoute, une des poursuites contre Doge, pour être un petit peu plus précis. Yep. En fait, c'est toujours, il y a toujours deux niveaux à une nouvelle. C'est qu'est-ce que tu lis, puis tu dis, ah ouais, puis après ça, tu dis, ah, il y a encore ces données-là. Il y a toujours deux niveaux quand tu lis. Puis en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est le Electronic Frontier Foundation, qui est un des privacy watchdogs qui est très actif aux États-Unis. Évidemment, bon, on a compris très vite que le Doge avait accès à tous les dossiers des employés. Puis là, ils disent employés présents, futurs, passés, puis c'est comme passés. Puis là, ils disent, ah, ils ont même accès à leurs données de santé. Puis c'est comme, mais qu'est-ce que tu fais avec les données de santé des employés passés? T'sais, puis là, plus tu lis, plus là, tu dis, OK. Tu lis entre les lignes, tu essaies de comprendre comment c'est arrivé. Puis là, ils disent t'sais, que c'était pas voulu, puis là, ils disent on va se défendre. Non, mais là, quand tu lis à travers tout ça, à travers ce qui est écrit dans les médias, puis que tu lis d'une logique d'ordinateur, ça peut pas ne pas être voulu. Tu comprenais? Ils sont pas tombés dedans parce qu'ils ont ouvert une porte, il y avait un balcon pas fermé. Il y a soit quelqu'un qui leur a donné un accès, soit l'accès existait. C'est vraiment pas compliqué. Puis je pense que dans les médias, des fois, on veut compliquer des choses qui sont quand même assez claires. Et d'après moi, qui ont des fichiers log pour nous dire comment c'est arrivé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les organismes qui font les poursuites, ce sont des organismes qui sont très qualifiés et qui ne sont pas leur premier rodéo, eux autres non plus. Le gouvernement continue de tenir son bout, qui est selon eux, ils avaient le droit d'accéder à ces données-là, mais tout le monde est d'accord que les données sont là. Tout le monde est d'accord sur le fait que les données sont là, n'ont pas été supprimées peut-être parce que la loi américaine fédérale ne l'oblige pas. Et ça nous ramène tout le temps au fameux problème des données des employés qui sont jamais vraiment bien protégées nulle part. Elles sont protégées au Canada, mais OK, puis il arrive quoi, vous pensez, si le gouvernement du Canada rentre puis il prend? Il arrive quoi? On fait quoi? donc, c'est même si théoriquement, il y a quelque chose à faire, on se rend compte que ça nous prendrait un Electronic Frontier Foundation probablement pour faire quelque chose, puis on n'en a même pas. Donc, on est tout un petit peu plus vulnérable dans ce cas-là. Et voyez, en Virginie, ils ont passé une loi sur le AI. Genre, cool, je lis ça. Ça dit, ça l'exclut lorsque les gens agissent dans une compétence ou dans des circonstances qui sont commerciales ou reliées à l'emploi. Je suis comme, moi, je travaille tout le temps. Une fois, tu peux m'espionner tout le temps, pas de problème. Puis là, tu regardes, tu dis, tu as une industrie de 1,7 billion de prendre des décisions automatisées sur du AI des consommateurs. Puis là, tu dis, en excluant ça, puis là, tu dis, ça va coûter 125 millions. Tu dis, il y en a combien d'AI qui utilisent ces données-là? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Ils disent, ça va coûter 125 millions aux entreprises de se conformer. Tu as 125 millions de dollars d'entreprises qui doivent se conformer juste en Virginie. Ils font quoi avec les données des employés? Ils font quoi avec les données des gens? Puis ça, c'est le type du iceberg, là. Ce que Doge nous montre en ce moment, c'est que toutes ces données-là existent encore, ne seront probablement jamais supprimés pour plein de raisons de national security et vont probablement tout le temps dans l'histoire être accessibles de même. Fait que n'importe qui pourrait devenir premier président là-bas, nommer quelqu'un, puis accéder les données parce que l'État va jamais, jamais les supprimer, les données du moment que vous allez travailler pour l'État. Et la plainte que vous allez faire peut-être après avoir été envoyé de Doge, elle aussi va rester là pour toujours. Fait que c'est très inquiétant et je le mentionne parce que je pense qu'on est là, on regarde les Canadiens et on est comme, eux autres sont en train de scraper leur démocratie, ça nous arrivera jamais. Mais on n'a pas besoin, le gouvernement les a quasiment déjà tout mis en ligne pour nous. Fait que, tu sais, pensez-y, si ça n'arrive pas juste aux autres. Des accès gouvernementaux très, très larges existent. On a beaucoup moins de données des États-Unis, puis effectivement, il y a beaucoup de nos données qui sont déjà en ligne. Donc, c'est très inquiétant et nos gouvernements doivent absolument se responsabiliser. Quand on regarde ailleurs, on a peut-être l'impression de se consoler, mais non, en fait, c'est que nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ça. Et justement, les demandes d'accès à l'information, c'est pour ça. Avoir un comité là, qui rentrerait à l'intérieur du gouvernement du Canada en ce moment pour tout ouvrir, qu'est-ce qu'il trouverait? Puis combien de fois il rentrerait dans des données par incident? Données mal classifiées, avec une mauvaise classification. Fait, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre ça puis de le ramener à la maison, de dire comment nous, on gérait ça. Puis, je ne suis pas sûre qu'on le gérait bien. Je ne sais même pas si on saurait quoi faire comme action.
Ouais.
Ça annonce bien. Ben, Steve, on finit ça sur une de tes nouvelles que je pense qu'il faut en parler parce que la reconnaissance vocale de nos banques ne fait pas le poids à l'IA. Je pense pas que ça fasse le poids à n'importe quoi tel que moi. Hey, on en a parlé de ça il y a longtemps, mais là, on a la preuve, c'est ça?
Ben, c'est ça qui me fait rire là, parce que, tu sais, encore une fois, on est la gang ici là, qui crie souvent au loup, justement. Personne ne nous croit, puis ils disent « Ah, ils sont fourrés d'eux autres, là, ils délirent là, dans leurs affaires. » Puis ah, mais là, regardons ça. Il y a un média critique, un média, c'est-à-dire crédible, qui vient de faire les démonstrations, donc la facture à Radio-Canada, quand même une émission très respectée, et qui l'ont fait l'essai. Ils ont pris une voix, ils l'ont synthétisée par trois différentes expériences, si mon souvenir est bon de l'article. Et ils l'ont essayé, donc ils ont cloné leur voix, là, ces personnes-là, et ils ont fait la tentative donc d'accéder à un compte à toutes les institutions financières et ça a fonctionné. Ils ont bypassé, il n'y a aucune vérification, ça je le dis depuis longtemps, il n'y a aucune contre-vérification contre la modernité de cloner des voix lorsqu'ils entrent vers l'institution financière puis ils se sont retrouvés pareil comme les autres journalistes.
Ça a fonctionné partout. Ils ont-tu tout le même software? Ils ont-tu un problème de supply chain aussi?
Ben oui, certains aussi. ça fait partie de ces 26, justement. Anyway, ça pour dire que allez voir la facture de Radio-Canada. Ça vient de sortir aujourd'hui. Là, on est quoi, mardi le 25. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir. Et j'espère, comme moi, que vous allez demander aux institutions d'arrêter ces niaiseries-là. Exemple, il y a une compagnie de téléphonie cellulaire qui exclusivement faut utiliser la voix pour se rendre jusqu'à parler à quelqu'un. Au lieu de prendre le clavier qu'on faisait la séquence, puis ça allait vite pour se rendre là. Mais non, il nous met des freins comme ça. Et là, c'est pas juste un frein. Dans ce cas-ci, ça devient une vulnérabilité. Alors, ce que j'aime pas, et ce que je ne participe pas surtout, c'est justement lorsqu'ils offrent de faire une reconnaissance vocale, vous allez voir, c'est sécuritaire, ça va accélérer le service, etc. Ben non. Ce reportage-là vous démontrera, comme on dit depuis longtemps, que c'est faillible et n'embarquez pas là-dedans. Surtout comme la fameuse phrase qu'on vous demande, donnez une phrase de sécurité si vous ne prenez pas la voix, ben donnez pas le vrai nom de votre mère, donnez n'importe quoi. Et comme ça, ils vont juste comparer ce que vous dites comme information à l'écran, c'est supposé de matcher. Autrement dit, si la question du jour est, quel est le nom de votre mère, de jeune fille de votre mère? Et vous répondez Sandales Mexique 2014, ben si c'est ça la réponse dans l'ordinateur de l'agent, il va vous le donner. Ils n'iront pas contre-vérifier si c'est votre vraie mère.
Voyons, non, exact.
Pas ça, là.
Bon point. Puis on termine sur un sujet qui fait beaucoup parler dans la communauté, la poursuite de Chris Adnagy versus DEFCON aux États-Unis.
Oh, oui.
Chris, qui était le lead du village de social engineering au DEFCON 2022, a été mis dehors du DEFCON en 2021. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il y avait eu des problèmes avec lui. Il a poursuivi DEFCON pour perte de réputation, diffamation, etc. Je crois dans 3 États, 2 l'ont refusé, la dernière au Nevada l'a accepté. Et les preuves de DEFCON sont sorties cette semaine. C'est un document de 774 pages et un sommaire de 37 pages qui explique l'histoire des 700 pages. Personnellement, je me suis beaucoup impliqué aux US aussi avec beaucoup de monde. Je connaissais l'histoire depuis presque 10 ans déjà. On le savait, on ne pouvait pas vraiment dire tout. Mais ça fait longtemps que je dis arrêtez d'acheter des livres de cette personne-là. allez lire les 700 pages ou juste le résumé, dépendant du temps que vous avez. C'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne personne. Ça prouve tout ce qu'on sait. Dans le pire qui est élu là-dedans, cette personne-là a menacé employés, personnes qui participaient de ces formations et autres avec des couteaux dans leur visage, leur traiter de les frapper dans la gorge, beaucoup de misogynie, de dire que ses employés étaient vraiment cute ou hot, plein d'affaires qui étaient déplacées comme ça non-stop. Il y a 700 pages de preuves de tout ça. Avec, je pense, cinq à sept personnes qui ont donné leur nom officiellement et une dizaine sous couvert d'anonymat dans plusieurs choses. Fait que une personne en cybersécurité qui ne comprend pas que des preuves informatiques peuvent se retourner contre lui, c'est pas mal ça qui s'est passé là-dedans, parce que sa poursuite se tourne 100% contre lui, même si la poursuite n'est pas rejetée par la cour. Les preuves qui sont sorties, je veux dire, c'est terminé. Là. Je pense pas que... Sa carrière est déjà terminée pas mal, là, mais là, c'est le marteau final. Là. T'es sûr,
On t'entend pas, Vanessa.
Il y a quand même 15 000 personnes qui le suivent encore sur LinkedIn.
Oui, malheureusement. Puis il vend encore des livres, puis sûrement des formations. Dans les années que j'ai su que ça s'est passé, ils ont engagé une personne qui dans l'entreprise. J'étais comme ça, bizarre que ce genre de personne-là ait travaillé là. Puis dans la poursuite, cette personne-là détruit mais royalement tout ce qui fait menace à toutes les fois, terreur d'aller travailler. C'est quelque chose. Fait que
un beau champion.
Ouais, un beau champion. C'est important d'en parler, surtout ouais. Parce que d'un, il faut dénoncer ça. Si vous voyez des choses comme ça, il faut toujours le dire. Puis je pense que le fait que DEFCON a accepté d'aller en cour et non pas de payer à l'amiable, ce qui est chiant, là, on s'entend, parce qu'ils doivent dépenser du temps et argent. Là. C'est plus que 4-5 mois à passer du temps en cour, puis il leur reste un autre mois encore. Mais ça vaut la peine. C'est ça l'affaire, là. Il y a 15 personnes qui sont venues contre lui, mais la réalité, c'est qu'il y en a sûrement 2000 en arrière qui n'ont pas parlé encore. Là. Parce qu'il y en a formé du monde. Puis ça remonte, je crois, si je ne me trompe pas, 2013 à 2015. C'est pas dans les deux dernières années d'histoire.
Je pense ouais. Que ça va loin aussi pour montrer que, tu sais, même quand on dit oh, les trainings, à DEFCON, il y a 30 000 personnes qui étaient traînées en sécurité, puis cette personne-là se promenait entre ces personnes-là. Même. Dans une industrie de gens qui sont formés à temps plein de faire ça, cette personne-là a réussi à réussir dans la vie. Donc, en tant qu'industrie, des fois, on lance des rushs à des entreprises, là, mais je ne suis pas sûr qu'en tant qu'industrie, on fait nécessairement toujours mieux. C'est très facile de l'échapper, de ne pas porter attention à ce qui se passe alentour de nous. Puis, garde des histoires, tu sais, de dire il y a eu de l'espionnage dans des conférences de cybersécurité, il y a plein de choses qui s'est passé des conférences de cybersécurité, il y a eu plein de problèmes de sécurité physique, il y a eu plein de problèmes de sécurité mentale. Des fois, je pense qu'on a tendance à dire ah, c'est le problème des autres, le problème des fois du cordonnier mal chaussé, même on se regarde peut-être pas assez dans le miroir, on fait pas attention, mais tu sais, c'est l'image de l'industrie au complet aussi. Le fait d'avoir pris action, c'est ce qu'il faut faire pour nettoyer le plancher de l'erreur qu'on a fait. C'est ce qu'on s'attend d'un gouvernement quand il fait une erreur aussi.
Qu'il
nettoie le plancher en toute transparence. Puis DEFCON a été très transparent. C'était eux qui l'ont engagé. Ils sont allés publics. Pourquoi est-ce qu'un organisme comme DEFCON peut le faire, mais pas d'autres? À la fin, je pense que...
Dis-toi, Vanessa, pour connaître certaines des victimes qui l'ont déjà rapporté, ils l'ont rapporté à d'autres événements. Ça a été ignoré. Ou dit, c'est pas grave, on s'en fout, peu importe la réponse, là. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Là.
Exact. Alors, l'organisme, elle avait une responsabilité, elle l'a pris. Je trouve que c'est bien. Je pense qu'en tant que aussi de communauté, on doit aussi apprendre peut-être à être peut-être plus vigilant. Qui on réfère, avec qui on travaille. On ne fait pas de soins de vérification. Le monde, il présente du monde qu'on a vu 2-3 fois. Puis là, ça se fait présenter à plein de monde, mais il n'y a personne qui n'a jamais vérifié si cette personne-là vient d'où. Il faut faire attention aussi à le phénomène de l'idole en cybersécurité. Je le vois souvent. Les gens, telle personne, tu le connais-tu? Tu l'as-tu déjà vu? T'as-tu déjà vu
ton travail? Ouais.
Exact. C'est important. C'est notre job de s'assurer de ça, de l'authenticité. L'authenticité fait partie de notre définition de travail. Il faut commencer par l'appliquer avec nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Je pense que Francis s'est sauvé. Merci, Francis. Merci à vous deux aussi.
Merci.
Super épisode. On se revoit dans deux semaines, tout le monde. Allez lire beaucoup de documentation dans les show notes et on se reparle dans deux semaines.
Bye bye.
Bye. The French Connection.
Le Flo, il a fait un caca monstrueux un matin. Il a fallu que j'y fasse prendre son bain un matin. Il y en avait dans le dos. Il y en avait partout. Ah non, ça avait aucun sens. C'est lui. Même pire que ça, il nous disait lors de la soirée, il nous voyons, si je vous ai perdu où vous êtes. Même lors de la soirée, il nous disait que c'était même une manière de venir valider que la voix était bonne. C'était devenu même de l'authentification. C'était la reconnaissance vocale, c'était encore mieux que de reconnaître ta mère. T'sais, la reconnaissance vocale, c'était une coche en haut. T'sais, de la vraie voix de ta mère en termes de reconnaissance. Là, je pas, là, mon petit côté ingénierie puis échantillonnage de la voix, pas convaincu, là, que c'est aussi.
C'est sûr que c'est lui qui a dit ça.
Ouais, c'est lui qui nous a dit ça à la soirée. Puis, oh, t'as ses routes, ça se bypasse pas. OK. Ah, j'ai pas
fucking facile. Ben, en tout cas, si tu veux le dire, tu le diras, mais ce serait le fun de le dire. C'est pas de la diffamation. Qui l'a dit?
Connection.